Deuxième partie. Chapitre 1er. La lutte. Les scènes que nous avons fait passer sous les yeux du lecteur ont eu lieu dans un de ces moments de trêve incertaine plutôt que de paix, sorte d'entracte qui sépare les persécutions. Déjà sur notre route, nous avons entendu des bruits de guerre, la lutte se prépare. Le rugissement des lions de l'amphithéâtre qui a fait tressaillir Sébastien sans le faire trembler, les nouvelles arrivées d'Orient, les insinuations de Fulvius et les menaces de Corvinus sont venues confirmer les mêmes pressentiments. Avant peu de temps, nous verrons revenir les horreurs de la persécution et le sang des chrétiens coulera en formant un courant plus fort et plus noble que celui qui a déjà arrosé le paradis de la loi nouvelle. L'Église, dans sa calme prévoyance, ne néglige aucun des signes avant-coureurs de ce combat terrible et elle se prépare à la lutte. C'est du moment où elle s'arme pour descendre dans la lice que nous ferons dater la seconde partie de notre récit. C'est aussi le commencement de la lutte. Vers la fin du mois d'octobre, un jeune homme, qui n'est pas pour nous un étranger, parcourait les ruelles étroites du district connu sous le nom de Subura, région dont on ne sait pas au juste l'ancienne position, mais qui était proche du forum. Le vice et la pauvreté, qui marchent souvent de conserve, trouvaient asile dans cette région. Pancratius était tout à fait étranger à cette partie de la ville et il se trompa à plusieurs reprises avant de trouver la rue qu'il cherchait. Quand il l'eut trouvée, il fallut encore découvrir la maison, car aucune des maisons de cette rue ne portait de numéro. Il examina quelle était la mieux tenue de toutes à l'extérieur, et apercevant une demeure qui se faisait remarquer par sa propreté et son bon ordre, il frappa hardiment à la porte. Un vieillard, dont le nom ne paraît pas pour la première fois dans ce récit, Diogène, vint lui ouvrir. C'était un grand et robuste vieillard aux larges épaules, habitué à porter des fardeaux, du moins sa taille inclinée le faisait supposer. Ses cheveux d'un blanc de neige entouraient une tête large et massive. Ses traits étaient empreints d'une grande mélancolie, l'expression de sa figure semblait calme et d'une solennelle tristesse. Il représentait bien une personne qui a beaucoup vécu parmi les morts et qui se trouve très heureuse en leur morne société. Ses deux fils, Maius et Severus, deux beaux jeunes gens d'une force athlétique, demeuraient avec lui. Le premier s'occupait en ce moment à graver ou à effacer une vieille table de marbre, au revers de laquelle on voyait encore les restes d'une inscription païenne grattée par son nouveau possesseur. Pancratius regarda l'ouvrage en souriant. Il y avait à peine un mot ou une partie de phrase qu'on put déchiffrer. On y lisait « Pour Paul Tacla qui vend de l'orge dans la rue Neuve ». Le second fils de Diogène traçait avec un morceau de charbon sur une planche l'ébauche grossière d'un dessin représentant Jonas dévoré par une baleine et Lazare se levant de sa tombe. C'était là une esquisse qu'on devait évidemment reproduire ailleurs. Quand le coup frappé à la porte vint l'interrompre, le vieux Diogène mettait un nouveau manche à une pioche déjà ancienne. Ses occupations variées dans une seule famille surprendraient un visiteur moderne, mais elles n'avaient rien d'étonnant pour le jeune Pancratius. Il savait que cette famille appartenait à l'honorable et religieuse corporation des fossoresses ou fossoyeurs des cimetières chrétiens. Diogène était le chef, la tête de cette association. Saint Jérôme et un écrivain anonyme du même temps avec lui, comme plusieurs antiquaires modernes, pensent que le fossoyeur, dans la primitive église, faisait partie d'un ordre ecclésiastique comme le lecteur. Bien que cette opinion soit controversable, il est d'une haute probabilité que les devoirs de cet office étaient confiés aux mains de personnes choisies par l'autorité ecclésiastique. Le système uniforme adopté pour creuser, organiser et remplir les nombreux cimetières qui entourent Rome, ce système si complet dès son origine qu'il ne paraît avoir éprouvé aucun perfectionnement dans la suite des siècles, nous autorise à penser que ces prodigieux et vénérables ouvrages ont été conçus sous une direction unique et probablement exécutés par des associations formées pour cet objet. Ce n'était pas une compagnie semblable à celle des pompes funèbres qui font une spéculation de l'inhumation des morts, mais plutôt une confrérie pieuse fondée à cette intention. Une série d'inscriptions intéressantes, trouvées dans le cimetière de Sainte-Agnès, prouve que cette occupation était héréditaire dans certaines familles. L'aïeul, le fils et le petit-fils la remplissaient dans le même endroit. C'est ce qui explique l'habileté et l'uniformité des procédés qu'on observe dans les catacombes. Mais les fossores avaient évidemment un office supérieur et même une sorte de juridiction dans le monde souterrain. Quoique l'église eût un lieu réservé pour la sépulture de tous ses enfants, il était naturel que ceux qui choisissaient la place de leur sépulture, comme le voisinage des tombes des martyrs, donnassent une rétribution quelconque. Les fossoyeurs étaient chargés de régler ces droits, au sujet desquels intervenaient des transactions souvent mentionnées dans les anciens cimetières. On conserve encore au Capitole l'inscription suivante. « Ceci est une tombe pour deux personnes, achetée par Artémisius, et le prix en a été donné au fossoyeur Hilarius, bourses en présence du fossoyeur Severus et de Laurentius. » Il est probable que ce dernier nommé était le témoin de l'acheteur, comme Severus était le témoin du fossoyeur. Quoi qu'il en soit, nous avons dit à nos lecteurs tout ce qu'on sait sur la profession que remplissaient Diogène et ses deux fils. Nous retrouvons Pancratius suivant, le sourire sur les lèvres, les grossiers essais de Maïus dans l'art glyptique. Il l'interrogea bientôt ainsi. « Faites-vous toujours ces inscriptions vous-même ? » « Oh non !» répondit l'artiste, levant les yeux et souriant à son tour. « Je l'ai fait pour les pauvres qui ne pourraient pas payer une main plus habile. Celle-ci est destinée à une bonne femme qui tenait une petite boutique dans la Via Nova et qui, étant très honnête, ne devint pas riche comme vous pouvez le supposer. Et cependant, une idée singulière me vient à l'esprit en gravant son épitaphe. « Quelle est donc votre idée, Maïus ?» Je pense que peut-être, dans quelques siècles, des chrétiens liront avec respect mes grossières inscriptions sur la muraille et entendront parler avec intérêt de la vieille Poléclat et de sa boutique d'orge, tandis qu'on ne s'arrêtera plus pour lire le nom des empereurs qui ont persécuté les chrétiens. J'ai peine à croire, cependant, que les superbes mausolées des souverains tomberont en ruine et que la mémoire d'une pauvre marchande parviendra jusqu'aux âges les plus lointains. Qui peut vous donner cette pensée ? Tout simplement parce que je crois qu'il vaut mieux garder pour la postérité la mémoire d'une pauvre femme pieuse que celle d'un mauvais riche. Mes rudes inscriptions seront peut-être lues quand les arcs de triomphe seront démolis. C'est cependant bien horriblement écrit, n'est-ce pas ? Peu importe, cette simplicité vaut mieux que le plus beau style lapidaire. Mais quelle est cette dalle de marbre placée contre la muraille ? Ah, c'est une bien belle épitaphe qu'on nous a apportée pour la placer. Le graveur et l'écrivain sont deux personnes différentes, comme vous allez le voir. Elle doit être posée dans le cimetière de la villa de la noble Agnès, sur la voie Nomentanée. Je sais qu'elle est destinée à honorer la mémoire d'un charmant enfant dont la mort est profondément regrettée par ses vertueux parents. Pancratius prit une lumière et lut ce qui suit. Dionysius, l'innocent enfant, repose ici parmi les saints. N'oubliez pas dans vos pieuses prières l'écrivain et le graveur. Cher et bienheureux enfant, dit Pancratius quand il eut achevé la lecture de l'épitaphe, dans vos saintes prières, joignez mon nom à ceux de l'auteur et du graveur de votre épitaphe. Amen, répondit la pieuse famille. Pancratius se retourna, frappé de l'altération de la voix de Diogène, et aperçut le vieillard s'efforçant de couper l'extrémité d'un coin qu'il avait enfoncé dans le manche de sa pioche pour empêcher le fer de s'ébranler. Mais il semblait avoir la vue troublée, et à chaque instant, il passait sur ses yeux sa main brunie. « Qu'avez-vous donc, mon vieil ami ? » demanda le jeune homme avec bonté. « Pourquoi l'épitaphe du jeune Dionysius vous cause-t-elle une si vive émotion ?»« Ce n'est pas l'inscription elle-même qui me fait défaillir ainsi, ce sont les souvenirs du passé qu'elle réveille en moi et les appréhensions de l'avenir qu'elle me fait entrevoir. » »« Quelles sont donc ces pensées si pénibles, Diogène ?»« C'est tout simple, voyez-vous, de prendre dans ses bras un doux enfant comme Dionysius, enveloppé dans un cercueil rempli de parfums, et de le déposer dans sa tombe. Ses parents le pleurent sans doute, mais son passage des douleurs de la terre aux joies du ciel a été facile et doux. Mais c'est une tâche bien différente, une tâche qui demande un cœur aussi aguerri que le mien par l'habitude, dit le vieillard en passant encore sa rude main sur ses yeux humides, que de recueillir à la hâte les chairs meurtries et les membres brisés de notre enfant, de les envelopper rapidement dans un linceul grossier en les recouvrant d'une couche de chaux vive au lieu d'aromates, pour les ensevelir précipitamment dans leur tombe. Ah, l'on voudrait honorer autrement les restes d'un martyr. C'est vrai, Diogène, mais un brave officier préfère un magnifique sarcophage sculpté de la voie appienne à l'humble tombe du soldat mort au champ de bataille. Des scènes de la nature de celles que vous venez de décrire sont-elles fréquentes en temps de persécution ? Elles sont communes, mon jeune maître. Je suis sûr qu'un pieux adolescent comme vous a visité, au jour anniversaire de son martyr, la tombe de Restitutus au cimetière d'Hermès. Certainement, je suis allé la visiter et je me suis pris souvent à envier le martyr précoce de ce jeune saint. L'avez-vous enterré ? Oui, ses parents lui ont élevé une tombe splendide, l'arcosolium de la crypte. Mon père et moi, nous l'avons faite de 6 dalles de marbre recueillies à la hâte et j'ai gravé moi-même l'inscription qu'on y lit. Je crois que je gravais mieux que Maïus, interrompit le vieillard, remis de son émotion. Ce n'est pas vous vanter beaucoup, mon père, reprit le jeune homme en souriant, mais voici la copie de l'inscription que vous avez écrite, ajouta-t-il en tirant le parchemin parmi beaucoup d'autres feuilles. Je me la rappelle très bien, dit Pancratius en jetant les yeux sur le parchemin, puis il lut ce qui suit, en corrigeant les fautes d'orthographe sans effacer les fautes de grammaire. À Elius, Fabius, Restitutus, leur pieux fils, ses parents ont élevé cette tombe. Il vécut 18 ans et 7 mois. Qu'il repose en paix. Pancratius continua. Quelle gloire pour ce jeune homme d'avoir confessé le Christ dans un âge encore si tendre. Sans doute, répondit le vieillard, mais j'ose dire que vous le croyez seul dans son sépulcre. Tout le monde pense cela en lisant l'inscription. Je le croyais aussi. En est-il autrement ? Oui, noble Pancratius, un compagnon plus jeune que lui est venu partager sa couche funèbre. Au moment où nous fermions la tombe de Restitutus, l'on nous apporta le corps d'un jeune garçon qui n'avait pas plus de 12 ou 13 ans. Oh, je n'oublierai jamais ce spectacle. On l'avait suspendu au-dessus de la flamme. La tête, le tronc des jambes jusqu'aux genoux étaient brûlés jusqu'à l'os. Il était si défiguré qu'on ne distinguait plus ses traits. Pauvre enfant, qu'il a dû souffrir ! Mais pourquoi le plaindrais-je ? Nous étions pressés par le temps. Je pensais alors que le jeune homme de 18 ans ne refuserait pas une place à son compagnon d'armes de 12 ans et l'adopterait dans son tombeau comme un jeune frère. Nous le déposâmes donc au pied d'Elius Fabius. Mais nous ne pûmes rappeler par une seconde fiole de sang placé en dehors du sépulcre, que là dormait un second martyr. Le feu, en pénétrant dans les veines, avait séché jusqu'à la dernière goutte de ce précieux sang. Noble et courageux enfant, si le premier était plus âgé, le second était plus jeune que moi. Que diriez-vous, Diogène, si un de ces jours vous aviez à me rendre les mêmes services qu'à lui ? Oh non, j'espère que non ! Répondit le vieux fossoyeur d'une voix que l'émotion rendait tremblante. « Ne faites pas allusion à un tel événement. Mon temps viendra avant le vôtre. Les vieux arbres ne sont pas toujours épargnés et les jeunes plants coupés avant l'heure. » Allons, mon bon ami, ne vous affligez pas. Voilà que j'ai oublié de vous exposer le motif qui m'amène et d'accomplir mon message. Venez chez ma mère demain dès l'aurore pour arrêter les arrangements à prendre dans les cimetières en vue de la prochaine persécution. Notre saint pape y sera avec les prêtres des différents titres, les diacres des régions, les notaires dont le nombre est complet maintenant, et vous, le fossor en chef, afin que tous puissent agir de concert. Je n'y manquerai pas, Pancratius, répondit Diogène. À présent, ajouta l'adolescent, j'ai un service à vous demander. Un service, à moi ? Reprit le vieillard étonné. Oui, je suppose que vous allez commencer immédiatement votre besogne. Eh bien, j'ai souvent visité les cimetières par dévotion, mais je ne les ai jamais étudiés et examinés soigneusement, et j'aimerais les étudier avec vous qui les connaissez si bien. Ce sera une grande satisfaction pour moi, répondit Diogène, flatté du compliment et encore plus heureux de l'attrait que son jeune ami ressentait pour les catacombes que lui-même aimait tant. Lorsque j'aurai reçu mes instructions, j'irai au cimetière de Callistus. Trouvez-vous à la porte Capenne une demi-heure avant midi et nous irons ensemble. Mais je ne serai pas seul, continua Pancratius. Deux jeunes gens baptisés récemment désirent beaucoup se familiariser avec nos cimetières qu'ils connaissent à peine et m'ont demandé de les y conduire. Vos amis seront toujours les bienvenus. Quels sont leurs noms afin de ne pas m'exposer à une méprise? L'un est Tiburtius, le fils de Chromatius, le dernier préfet. L'autre est un jeune homme nommé Torquatus. Sévérus tressaillit à ce nom et dit « Êtes-vous bien sûr de ce dernier, Pancratius ?» Diogène reprit son fils en disant « Puisqu'il vient en la compagnie de Pancratius, c'est pour nous une garantie suffisante. » « J'avoue, interrompit l'adolescent, que je le connais moins que Tiburtius, celui-là est un bon camarade et un charmant jeune homme. Torquatus paraît désirer vivement obtenir des détails sur toutes nos affaires et semble très fervent. Qu'est-ce qui vous fait craindre, Sévérus ? » ?»« Peu de choses, sans doute. Ce matin, en allant au cimetière, j'entrais dans les bains d'Antoninus. « Quoi ? » interrompit Pancratius en riant. « Vous êtes un habitué des lieux à la mode ?»« Pas tout à fait, reprit l'honnête artisan, mais vous ne savez peut-être pas que Cucumio le Capsarius et sa femme sont chrétiens. »« Est-ce possible ? Comment aller chercher là des chrétiens ?»« Ils le sont pourtant, et ils se font faire une tombe dans le cimetière de Callistus. J'avais alors montré l'inscription que Maius a composée à cette intention. » « La voici, » dit ce dernier, en faisant voir l'épitaphe suivante. Cucumio et Victoria, de leur vivant, ont fait pour eux cette tombe. Capsarius, gardien d'habits, des bains d'Antonius. « Délicieuse !» s'écria Pancratius, qui s'amusait des fautes grammaticales dont cette épitaphe était remplie. « Mais nous oublions Torquatus. » « Eh bien, lorsque j'entrai dans le bâtiment, » reprit Sévérus, je ne fus pas peu surpris de trouver dans un coin, à cette heure matinale, Torquatus causant mystérieusement avec Corvinus, le fils du préfet actuel, Corvinus, le faux estropié, qui s'introduisit dans la maison d'Agnès, vous vous le rappelez, quand un charitable inconnu, que Dieu le bénisse, distribua aux pauvres de larges aumônes. J'ai pensé que ce n'était pas là une bonne compagnie pour un chrétien. C'est vrai, Sévérus, reprit Pancratius en rougissant. Mais il est encore nouveau venu dans la foi, et son ancien ami ne connaît sans doute pas son changement. Espérons que tout sera pour le mieux. » Les deux jeunes gens s'offrirent pour accompagner Pancratius qui se levait, afin de s'assurer qu'il sortirait sain et sauf de leur quartier si pauvre et si mal famé. Il accepta avec plaisir leur offre obligeante et souhaita une bonne nuit au vieux fossoyeur.